R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Merci Aline et Marco pour votre invitation à me joindre à vous aujourd'hui et à penser avec Elisabeth Povinelli. Alors, je vais y arriver. Est-ce que je suis en mode présentateur? Oui, c'est parfait. Donc aujourd'hui, il sera question de l'ère du poison, notre ère anthropocène et son rapport à la toxicité. Collectionner, indexer, collecter le cabinet de curiosité de l'anthropocène, c'est la première forme, c'est la première forme d'expression que les artistes réemploient avec le déchet depuis quelques années, à partir de laquelle je vais commencer cette incursion dans cette question des déchets et de la toxicité. Les artistes ont abordé depuis plus d'un siècle le déchet selon une procédure réhabilitative par réemploi et transformation, réadaptation au monde d'anciens objets qui ont traversé les ténèbres du déclassement, de la disgrâce, fragments porteurs d'une histoire et d'un récit. La pratique de la collecte du chiffonnier, pour reprendre la classification de Walter Benjamin, n'a pas cessé au cours du XXe siècle. C'est toujours aujourd'hui une manière de rationaliser, d'ordonner le flot de déchets qui a depuis longtemps quitté la sphère de l'événementiel pour s'installer dans une banalité, un ordinaire désolant. Beaucoup des pratiques actuelles sont des pratiques maritimes, côtières, des pratiques de plage sur lesquelles échouent un nombre toujours croissant d'objets, de fragments, qui contribuent à une archéologie de notre civilisation et témoignent de son appétence pour le plastique. Gyre, the Plastic Ocean, exposition organisée au Musée d'art d'Anchorage en Alaska en 2014, a convié à cet effet des artistes comme Mark Dyan, Pam Longobardi et Karen Larsen à explorer le littoral en compagnie de scientifiques et de créer à partir des trouvailles laissées par les marées. Alors que les années 80 ont été marquées par des images des plages souillées du pétrole non raffiné de l'Exxon Valdez échoué sur ces mêmes côtes alaskaines, révélant un recouvrement visqueux, l'esthétique actuelle dénonce un éparpillement non moins létal pour l'environnement. Les déchets collectés ont montré la diversité des routes maritimes, beaucoup d'entre eux provenant du Japon suite au tsunami de 2011 qui avait frappé les côtes de Fukushima, charriant loin des côtes nippones des quantités de déchets aux quatre coins du Pacifique. L'approche des artistes comme Dyan ou Longobardi consiste à donner un sens à cette marée désormais colorée de déchets plastiques, à indexer, ranger, classer par couleur, par famille, par chronologie. La réhabilitation esthétique est ici orientée vers l'historicité des matériaux, la nécessité d'intégrer ces artefacts au récit de l'Anthropocène. Ces collectes et classements entrent dans la composition des cabinets de curiosité, forme muséale par excellence de l'Anthropocène. En ravivant cette forme de muséographie qui convient depuis la Renaissance, sous la forme du studiolo dans un premier temps jusqu'au cabinet de curiosité, artificialia, mirabilia, naturalia, exotica et scientifica, les artistes contemporains affirment la nécessité de rétablir l'association fondamentale qui présidait à l'organisation des cabinets, celle de la scientificité à la subjectivité interprétative. Empruntant leurs atours aux nomenclatures et index scientifiques du cabinet, les artistes rangent ainsi un monde dérangé selon une méthodologie et des protocoles qui leur sont propres. Le cabinet de curiosité est l'espace de l'amateur par excellence, collectionneur, accumulateur libre, libre d'association et d'interprétation. Cet espace expositionnel, tout en étant érudit, scientifique, esthétique et divertissant, constitue un éloge à la curiosité, laisse cohabiter le monstrueux porteur de dégoût avec la trouvaille, suscitant l'émerveillement ou l'admiration. Les réponses émotionnelles y sont permises, on a beaucoup parlé d'émotions ce matin. A contrario de l'espace scientifique universaliste, sciemment refroidi et désubjectivé. Le cabinet de curiosité oblige à une coexistence pacifique entre ces trouvailles, artificialia et naturalia, mirabilia et exotica, des assemblages contre nature, parfaitement anthropocènes, puisque cette ère nous conduit à déconstruire les catégories. C'est ce dont témoignent les natures mortes d'Adam Vatska et celles de Tirza Shap, combinant le ramassage et nettoyage des rivières, rivières de Vltava à Prague et côtes maritimes d'Afrique du Sud, et la composition avec certains éléments naturels, eux aussi glanés sur place. Jean-Hubert Martin disait à propos du cabinet de curiosité, je cite, « Oscillant des valeurs établies sur fond de certitude esthétique à des valeurs dialectiques perpétuellement remises en jeu, le cabinet de curiosité offre du narratif, de l'éthique, du méditatif, du poétique, du quotidien, du réflexif, du politique, sous des formes qui sont difficilement admises ailleurs. Il incarne le contre-pouvoir de son puissant pouvoir institutionnel. » Fin de la citation. Les cabinets de curiosité étaient organisés selon des principes de similitude et ressemblance, activant des mécanismes expositionnels de persuasion, de plaisir. Une véritable politique de la représentation qui sera déclassée à partir du XVIIe siècle lorsque s'imposa l'authentification d'après méthode, la classification, l'ordonnancement selon des systèmes réputés objectifs. Les formes actuelles de cabinet font converger ces deux approches en apparence. En apparence contradictoire, entre la raison et l'émotion, dégommant au passage le dualisme cartésien qui ne cesse d'être mis à mal depuis les débuts de la postmodernité. Spécimens artificiels, plastiques, naturels, colonisation, des supports par des micro-organismes, éléments naturels, exotiques selon leur provenance, antiquité, etc., se retrouvent agencés, sortis du chaos de leur trajectoire. L'anthropocène est emblématique d'une perte de contrôle, d'un emballement auquel le cabinet de curiosité, éclectique, vient donner une raison, un ordre, aussi subjectif et empirique soit-il, signalant à la fois l'empreinte du scientifique et de l'histoire sur le sujet environnemental, et une déprise puissante régie par l'émotion et la subjectivité. L'humain de l'anthropocène affirme sa faillibilité et sa versatilité dans ce dispositif, sans toutefois considérablement modifier la perception du déchet depuis son introduction dans le monde de l'art. Il s'agit toujours de déplacer, d'enjoliver, de capturer des spécimens, de témoigner d'un monde qui nous échappe et que l'on tente d'interpréter et de comprendre. La fiction se mélange à la collecte et l'ordonnancement. Un récit se met en place avec chaque visiteur pour tenter de trouver une raison, une explication raisonnable à ces vestiges du consumérisme, des routes maritimes, sans toutefois se lancer dans une véritable confrontation avec le visiteur consommateur et l'éduquer, mais plutôt en l'exposant à la durabilité des objets plastiques, comme en témoigne l'affaire du téléphone Garfield, dont les carcasses plus ou moins intactes apparaissent régulièrement sur les plages du Finistère depuis 30 ans. L'existence du déchet sous sa forme artialisée s'est assagie et ne peut rivaliser avec la réalité des photographies rapportant la quantité effarante de déchets relâchés dans les rivières ou dans la mer. Cette nécessité est plus que jamais fondamentale, comme celle de témoigner, visualiser la pollution, l'empoisonnement des territoires et celui des personnes. La première nécessité, en termes de pollution atmosphérique, d'empoisonnement des territoires, a été de témoigner, de donner une forme visuelle à des contaminations parfois invisibles, fugaces, dont la principale condition d'existence est souvent et avant tout chiffrée. L'essor de la photographie environnementale des années 60 et 70 est lié à cette nécessité. Les premières images sont celles de catastrophes environnementales, d'accidents, de déversements, sous une forme sensationnaliste, avec force de nuages toxiques, de bouillonnements nauséabonds et d'atmosphères saturées. Le parangon de la photographie environnementale s'est établi à l'aune des années 70 et a assez peu varié depuis. À cet héritage iconographique, dans la perspective des devoirs testimoniaux et des pouvoirs politiques et juridiques supposés de l'image, et afin que ce portrait global de la photographie environnementale soit juste, il a fallu ajouter le revers humain du désastre écologique. Cette part, qui se caractérise comme activiste, se concentre sur la dimension humaine et non plus seulement naturelle, sur les effets calamiteux au plan humain des dysfonctionnements climatiques et des ingérences industrielles. En 1988, la photographe américaine Sharon Stewart a commencé sa série Toxic Tour of Texas, complétée en 1989. Animée par un sentiment d'urgence face à la catastrophe qui se déroulait sous ses yeux, dans tout l'État. Couvrant les dommages environnementaux causés par les industries de l'uranium et du pétrole, et enregistrant les témoignages de militants et de citoyens concernés, Stewart a utilisé une combinaison d'images et de textes pour lancer une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale. Sharon Stewart a diffusé son enquête Toxic Tour of Texas, articulant témoignages visuels et oraux sous la forme d'expositions. Exposée au Capitole de l'État du Texas à l'occasion du Jour de la Terre en 89, 1991 et 1992, dans de nombreux contextes tant artistiques que citoyens ou politiques, dans des supermarchés par exemple ou des halls d'hôpitaux, son récit photographique continu, preuve irréfutable de crise majeure de pollution, a joué un rôle décisif dans le mouvement de changement des lois et de régulation des impacts environnementaux au Texas. Elle a aussi opté pour une diffusion très réactive sous la forme photonarrative d'un livret illustré et simplement photocopié en noir et blanc, répondant à la situation d'urgence dans laquelle se trouvaient les témoins qu'elle avait rencontrés. Les travaux de la photographe ont également servi à l'époque de preuve, legislative testimony, auprès de commissions environnementales. Un usage plutôt rare et une effectivité tout aussi exceptionnelle visant à convaincre les pouvoirs publics qui ont rendu le projet particulièrement remarquable et donné une portée inédite à la mission de la photographie environnementale. Tout avait commencé pour Sharon Stewart par un empoisonnement dû aux produits photographiques de développement qu'elle utilisait et qui lui a fait prendre conscience de la toxicité de certains produits extrêmement courants. Je reprends ensuite ces termes. A toxic tour of Texas is made of journeys through a state that prides itself on being the biggest and the best. And it is. Texas has the largest concentration of oil refineries and chemical plants in the nation. Texas ranks first in the United States in the amount of known or suspected carcinogens released into the environment. Texas also leads the nation in the amount of hazardous waste disposal sites, 70% of which leak and threaten groundwater. And Texas industry discharges the highest level of toxic air emissions in the country. The guides on this tour are farmers, priests, mothers, ranchers, engineers, nurses, and teachers. We're all intent on protecting their land, children, homes, and their communities from exposure to hazardous waste. Their activism crosses social, economic, and racial boundaries. This coalition for the 90s aligns the century's labor, civil rights, women's, peace, and ecology movements. Their united plea now is for the basic life-sustaining elements of clean land, air, and water. They've influenced and reversed government decisions. They've altered harmful industrial practices. They've changed their personal lifestyles, habits, and attitudes as a model of shared responsibility and maintaining this balance of life on Earth. Ce qui est intéressant avec le projet de Sharon Stewart, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de la parole des militants, des activistes environnementaux. Elle a également interrogé les industriels qui se sont étonnamment prêtés au jeu, qui ont répondu à ces questions. Et elle a également interrogé des partenaires beaucoup plus taiseux qui étaient les administrations de l'État, les administrations texanes. Mais c'est vraiment la combinaison de ces trois témoignages qui est suivie tout au long de son Toxic Tour Guide of Texas. Elle a tenu à juxtaposer toutes ses voix dans cette enquête pour ne pas prêter effectivement son travail à une simple instrumentalisation activiste. Elle a souhaité vraiment pouvoir donner voix à toutes les parties. Cette enquête au long cours qu'a effectuée Sharon Stewart est à ma connaissance une des premières, un modèle du genre car elle donne voix à toutes les parties. Elle offre au public de multiples points de vue, de multiples natures de discours, comme ici lorsque le prêtre se confie, bon c'est illisible, vous m'excuserez, se confie sur la difficulté de recueillir les paroles de ses concitoyens qui se plaignent effectivement de leurs pauvres conditions de santé. Ainsi que l'a analysé Abigail Salomon-Godot, tout est toujours affaire de contexte. Comme l'ont souligné maints théoriciens et critiques de ce mode de représentation, la photo ne possède ni faculté d'explication ni faculté d'analyse. La recherche des causes ou des raisons n'entre pas dans ses attributions. Sa signification, loin d'être fixée une fois pour toutes, repose sur son emploi et cet emploi est conditionné par son contexte. Et c'est extrêmement très bien compris par Sharon Stewart. Les travaux sentinelles comme celui de Stewart articulent très fortement l'image au contexte, déployée sous la forme de texte et de contexte visuel. L'enquête menée sur la logique de la visualisation à charge, de la plaidoirie visuelle, fournissant une preuve incontestable, a ainsi été exposée dans les lieux publics, agissant à titre d'éducateur mais aussi de procureur. Le modèle que constitue la démarche de Sharon Stewart reste aujourd'hui actif, si l'on se réfère par exemple au travail sur Monsanto entrepris par Mathieu Asselin et restitué sous la forme d'un livre et d'une exposition à Arles il y a 2 ans. En mettant en scène son engagement dans une perspective véritablement créative, plutôt que d'accrocher une ligne d'image de la même taille et à la même hauteur, avec une sorte de systématisme et de distance scientifique, comme on l'avait fait jusque-là avec la photographie environnementale, Asselin a joué sur un aspect différent. Avec Sergio Valenzuela Escobedo, photographeur et conservateur chilien, ils ont construit une traduction spatiale de l'expérience du livre, avec des tirages monumentaux surdimensionnés comme vous pouvez le voir ici, des duplicata de facsimilés de publicité et de contrats Monsanto, mais aussi des photographies au format standard, des vidéos, des semences. Ici, en fait, ça vous explique le très grand agrandissement de ce contenant scientifique renferme en fait un fœtus qui est déformé par l'utilisation de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Et c'est celui qui est considérablement agrandi ici et ne vous laisse pas choix d'être confronté effectivement à cette indéniable preuve de la toxicité de l'agent orange. La taille de la salle d'exposition elle-même était humaine à Arles. Elle n'était pas écrasante et tout le contenu de l'ouvrage de Monsanto n'était pas exposé. Mais on avait encore ici quelques exemples de ces travailleurs dans l'Alabama qui ont été gravement impactés par l'utilisation notamment du Roundup. Donc, on a une poursuite de ces travaux sentinelles qui reposent toujours évidemment sur un contexte très détaillé dans les légendes et qui font que l'exposition reste toujours une expérience à voir et à lire, mais avec un choix là qui nous portait plus sur un mode subjectif, corporel, émotionnel et qui répondait plus à l'ADN de l'Anthropocène. Ces expériences restent rares aujourd'hui car le monopole visuel revient au système de visualisation statistique de la pollution, de l'empoisonnement des sols et des atmosphères, des synthèses extensives de données qui permettent habituellement de traduire visuellement des pollutions et de constater des dysfonctionnements environnementaux grâce à des courbes. Alors la plus célèbre est celle en forme de crosse, qui est la plus efficace selon les statisticiens, et celle avec des ascendances ou des descendances extrêmement marquées. Ils sont témoins de l'accentuation de certaines situations articulées le plus souvent à des durées, comme l'explique en introduction de leur ouvrage en 2014, Birgit Schneider et Thomas Snoke, l'ouvrage est Image Politics of Climate Change. Le principal écueil de cette forme de visualisation, selon le climatologue Joachim Schellnhuber, réside dans le fait que « in the highly regulated framework of scientific practice, there was no space for scientists' emotional reactions ». Such as fear, to the findings. Such emotions had to be assiduously suppressed when making scientific statements. Les images statistiques refroidissent le sujet et en répondant plus du texte que de l'image, révèlent davantage du rationnel que de l'émotionnel. Elles bénéficient donc d'une perception de crédibilité scientifique supérieure à l'image enregistrée, à l'empreinte photographique, soumise à la subjectivité de leur auteur. Mais cette objectivité a pour effet délétère d'éloigner le sujet, le sujet du récepteur, plutôt que de favoriser un rapprochement émotionnel et physique. En résulte, dans les modélisations artistiques, une sécheresse émotive, contre-productive, qui maintient une distance physique qui ne permet pas de ressentir le problème. Le primat visuel demeure dans nos sociétés occidentales. Dès lors, comment composer avec cette donne pour renouer avec les émotions et les sentiments ? Les artistes qui se sont frottés à l'esthétique des données ne parviennent pas à dépasser un canon statistique qui reste chevillé à la lecture et à l'apprentissage. Un rapport quasiment pédagogique qui ne renouvelle pas la perception du spectateur. Paul Virilio et les architectes Diller & Scofidio ont justement choisi une méthode immersive pour accompagner le spectateur dans un basculement d'une perception rationnelle vers une perception plus émotionnelle dans l'installation immersive Exit, actualisée en 2015 au Palais de Tokyo au moment de la COP21. Exit est bâti sur un écran circulaire sur lequel défilent des cartes, des graphiques, des chiffres, des pixels, des courbes, le tout rythmé par le passage virtuel de la Terre. On en a deux versions ici. Avec toujours une bande son également qui est très peuplée, très loquace. Des sons de forêt tropicale, des sons d'abeilles, le tout rythmé par des cartes, des chiffres qui sont extrêmement étourdissants. Tout est effectivement relié aussi à la sphère de l'argent, de la circulation des devises et des biens. Je cite là une journaliste du Monde. Exit montre un monde abrasé par les conflits et les catastrophes naturelles qui, depuis 2008, a touché 1,186 milliard d'humains, déplaçant 26 millions de personnes par an, soit une par seconde. Entre janvier 2006 et décembre 2014, 124 millions de personnes ont dû quitter leur région en raison d'inondations, par exemple. En 2014, la déforestation qui génère la destruction des savoirs et des espèces a détruit 10 millions d'hectares de forêt. Le parc de Xingu au Brésil, 1,069 milliard d'hectares détruits de 2000 à 2013 pour les élevages de bœuf et les plantations de soja. Des chiffres, une avalanche de chiffres, la réalité de la pollution et des désordres climatiques croule sous les nombres, étouffe sous les nombres. Le philosophe et les architectes ont opté pour un dispositif circulaire, immersif, plongé dans l'obscurité afin d'exacerber l'ouïe, la vue, davantage que les qualités proprioceptives du visiteur. Il ne peut jamais complètement embrasser le sujet qui accuse une globalité spatiale déroutante, une dimension à la fois accueillante et paradoxalement inhumaine, comme toutes ces données. C'est là, dans un vertige du savoir et de la méconnaissance, du rationalisme scientifique et de l'émotion esthétique, Exit déclenche cette qualité qu'affiche l'anthropocène. Une ère inhumaine et humaine, scientifique et culturelle, une ère liminaire qui permet de s'affranchir des dichotomies pour mieux les embrasser. Ce protocole d'accumulation qui installe les paramètres d'une allégorie de l'étouffement, il constitue un trope fréquent dans l'imagerie environnementale depuis très longtemps, depuis les années 70. Il a été essoré par des photographes catastrophistes de la démesure comme Edward Bertinsky. Et il s'active désormais sous la forme d'installations. Comme ici Plastic Ocean de Tan Zi Chi, produit au musée de Singapour et reformé à Mumbai en 2017. Submergeant littéralement le visiteur, englouti dans 26 000 pièces de plastique ramassées sur les plages de Singapour, ici, et dans les rues de Mumbai, puis nettoyées et suspendues dans l'espace. L'artiste intéressé par le fameux Great Garbage Patch, le gyre de plastique que l'on appelle le 8e continent qui flotte entre l'Asie, Hawaï et les côtes nord-américaines, a cherché à traduire cette réalité sans s'adonner au mimétisme, en cherchant un lien avec la réalité quotidienne côtière où les détritus apportés par les vagues jonchent les plages. À Singapour, les matériaux provenaient de sa collecte personnelle. À Mumbai, une association locale de recyclage a été mise à contribution afin de récupérer le matériel, le laver et suspendre les emballages de plastique dans l'espace d'exposition. Le résultat est une submersion à la fois aérienne et lourde. Si la soupe flottant dans le gyre pacifique est composée de plastique concassé qui le rend impossible à repérer par image satellite et lui permet de flotter entre deux eaux, rendant sa capture plus aléatoire, la soupe de l'artiste singapourienne est surmatérialisée, renvoyant à des marques et des emballages connus, à la toxicité du capitalisme et du consumérisme. Une impression similaire à celle de Tadashi Kawamata, Overflow, installation réalisée à Lisbonne cette année, même si celle-ci s'adonne davantage à un storytelling puisqu'on voit un bateau de plaisance montré en train de sombrer dans une mer de déchets et que le spectateur peut considérer suivant un double point de vue de l'extérieur ou sous le niveau de la supposée frondaison maritime. À partir d'une collecte de déchets sur les côtes portugaises effectuée pendant 2 années, qui ne doivent pas leur présence à une catastrophe, mais bien à la normalité de la réalité côtière, Kawamata a matérialisé un monde globalisé qui échoue sur les plages de Lisbonne tout en rejouant à mon goût de façon un peu trop littérale, un naufrage, et cédant à la tentation catastrophiste qui empoisonne la perception de l'Anthropocène. C'est une nouvelle fois le fruit d'un travail collectif, d'une communauté qui vient révéler la normalité littorale, l'étouffement tangible mais discret. Kawamata opte pour une approche immersive intermédiaire permettant d'observer de haut et au niveau supposé de la ligne d'eau. C'est une installation narrative qui vient raconter un événement et qui opère une référence au tsunami du Japon, aux destructions qu'il engendre, à la différence de l'installation de Tanzichi, non référentielle. Il met en scène une submersion, moins excessive, émotionnellement différente, qui va moins chercher l'asphyxie visuelle que le raisonnement, offrant toutefois une expérience de la démesure visuelle et de la mesure corporelle. L'Anthropocène n'est pas une ère catastrophique, c'est un nouvel ordre, certes délabré et problématique, qui menace le vivant, tous les vivants terrestres, mais ce n'est pas une ère du sublime qui suppose une vision à l'abri du danger. Elle suppose une immersion, une fusion avec les éléments, même les plus dommageables. Chris Jordan, avec la série photographique Midway, amorcée en 2009, et le film Albatros, opère une transition vers l'incorporation, en documentant l'hécatombe dans les populations d'Albatros sur l'île de Midway dans le Pacifique, dont les spécimens juvéniles succombent, étouffés par le plastique, ingérés involontairement, ramenés par leurs parents au cours de la pêche. Bien que l'île soit vraiment très éloignée, comme vous pouvez le voir, même si c'est flou, de toute présence humaine, elle n'échappe pas à sa nuisance, puisque les déchets flottent tout autour de l'île et contaminent les rations alimentaires quotidiennes. Cette réalité de l'ingestion plastique, de matières polluantes, est encore strictement animale dans ce travail documentaire et conserve une distance avec l'humain observateur, séparé de la réalité du sujet par son écran. La réalité de l'Anthropocène étant de plus en plus tangible, les stratégies d'incorporation progressent et passent de l'animal à l'humain pour accentuer la pression physique et une prise de conscience moins cérébrale. Ainsi, Pollution Water Popsicles de Hung Hee Chen, Kwa Yi Yui, je suis pas familière avec le chinois, vous m'excuserez, Cheng Yu Ti de Taïwan, ne propose pas vraiment la consommation de ces glaces à l'eau réalisées à partir de différents points d'eau de la ville, qui laissent apparaître une qualité répugnante, jouant sur les codes de l'indexation du déchet et de l'enquête sentinelle. Les trois étudiants taïwanais ont mis en scène un futur plausible, mais sous les aspects de la parodie. Toujours l'aspect consommable des produits frappe les esprits et les corps et nous rapproche toujours un peu plus de l'incorporation. Elle relève d'une stratégie de la menace, du danger potentiel, activé plus de 30 années auparavant par l'artiste australienne Bonita Eli avec Murray River Punch en 1981. Dans cette performance, elle préparait publiquement et offrait un punch aux passants dans un centre commercial d'Adélaïde en reconstituant la qualité de l'eau de la rivière Murray. Phosphates provenant d'engrais, matières fécales humaines, produits phytosanitaires, fumier de lapin. Évidemment, personne n'en consomma. La performance visant non pas à ingérer réellement le produit, mais à informer et faire réaliser, avec recette à l'appui, matérialiser la pollution des eaux parfois invisibles. La performance venait ponctuer une étude photographique et une analyse scientifique de cette rivière longue de 2700 km, menée pendant 3 ans. Une nouvelle fois, on menace de faire ingérer une soupe nauséabonde, mais sans sauter le pas. L'intégrité physique de l'observateur n'est pas atteinte. Cependant, Anthropocène se faisant, cette barrière psychologique et physique est en train d'être déverrouillée. Plus question de simuler, selon Michael Pinsky avec Pollution Pods, qui offre de s'immerger complètement dans des environnements pollués en les inhalant. Pas suffisamment longtemps pour encourir des risques pour la santé, mais suffisamment pour ressentir une gêne, être incommodé par l'odeur ou la saturation. Pinsky a reproduit la qualité de l'air, son odeur et la température de 5 villes. Londres, Pékin, Sao Paulo, New Delhi et Totra, dans une péninsule reculée de la Norvège. Le visiteur n'a pas d'autre choix que de traverser tous les pods pour ressortir. Le londonien moyen exposé au même type de pollution perdrait jusqu'à 16 mois de sa vie, ce qui est relativement positif par rapport à un habitant de New Delhi qui réduirait sa vie de 4 ans avec une pareille exposition moyenne. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Ici, vous êtes à Londres. Et ici, vous êtes à New Delhi. Ici, c'est Pékin. Ça va pas mieux. Donc, à New Delhi, la chaleur est oppressante et on a l'impression qu'un tas de déchets brûle en permanence et agresse le nez. À Sao Paulo et Pékin, c'est un épais smog qui pique les yeux en raison de l'éthanol. Et à Londres, les moteurs diesel des taxis sont devenus le bruit de fond ambiant de l'atmosphère à respirer. Et seul le pod de Tautra sentait le pain et les embruns. Le projet initial de Pinsky s'est fait à la demande de l'Université norvégienne des sciences et technologies de Trondheim pour Climate Art. Mais les responsables de la santé et de la sécurité britanniques ont déclaré l'installation illégale lorsqu'elle a été installée ici à Somerset House en 2018 en raison des quantités élevées de particules, notamment dans l'espace londonien. Il a donc été demandé de nettoyer des particules toxiques, le pod londonien, alors même que si vous sortiez dehors, vous étiez exposé à ces mêmes particules qui n'avaient pas été nettoyées. C'est tout le paradoxe. Cette prise de risque, somme toute relative étant donné le temps d'exposition, est cependant suffisamment persuasive, suffisamment agressive pour se montrer à la hauteur de la situation. Nulle allusion ici à une quelconque catastrophe. Les pollution pods affichent une certaine normalité, un ordinaire atmosphérique potentiellement létal qui constitue le nouveau normal anthropocène à expérimenter. C'est une stricte inversion du réflexe des artistes dans les années 70 face à la pollution atmosphérique qui proposait davantage d'expérimenter l'air propre, comme dans un clean air pod conçu par les architectes Dan Farm ici en 1970, voire de l'oxygène pur, légèrement euphorisant, avec Fresh Air Card de Gordon Matta-Clark à droite pour vous en 1972. À ces respirations empoisonnées, on peut ajouter d'autres matières, à la manière dont les perturbateurs endocriniens, les microplastiques et autres toxines de synthèse colonisent nos organismes. Nul transhumanisme ici, nulle science-fiction, mais l'expérience d'une soupe concoctée à partir des légumes cultivés dans la zone irradiée de Fukushima, survenue après, évidemment, l'accident nucléaire de 2011. La performance se déroule ici en 2014 à la foire Freeze de Londres et le duo formé par les frères Ei et Tomo Arakawa, flanqué de leur maman, maraîchère et cuisinière, y offrit une soupe affectueusement baptisée « soupe nucléaire ». À partir du daikon ayant poussé sur une terre contaminée. Si l'ingestion d'un seul petit contenant de soupe n'a pas d'effet sur l'organisme, la radioactivité n'en est toutefois pas absente, même si le légume est certifié consommable par la Japanese Farmer Association et qu'il a tout de même voyagé jusqu'à Londres sans aucun problème. L'effet psychologique est puissant et redoutablement efficace pour réaliser cette contamination. Et le don des artistes, car la soupe était donnée, c'était un cadeau, de se transformer en cadeau empoisonné, suivant une stratégie retorse très bien calculée, surtout lorsque l'on sait que la radioactivité n'a pas de goût et pas d'odeur. Le seul moment où l'humain ressent la radioactivité, c'est lorsque la dose est létale, alors un goût métallique s'impose dans la bouche. Mais les frères n'en sont pas là, ils ont juste fait goûter à la situation normale de cette partie de l'archipel que leurs habitants ont réintégrée, malgré les risques. Cette combinaison inductive et digestible, le Center for Genomic Gastronomy, l'a poussé à son paroxysme, en concoctant des meringues au goût smog. Lors d'un séjour à Bangalore, l'artiste Zach Denfield a relu la recette des meringues et accroché sur un point particulier. Le soin à apporter de l'air, à incorporer de l'air dans le blanc d'œuf. La qualité de l'air de la ville indienne laissant à désirer, avec 6 fois plus de particules fines que le taux acceptable, il a demandé à ses étudiants de se poster à des carrefours particulièrement pollués et de battre des blancs d'œufs pour concocter des meringues au goût de Bangalore. Particules fines, dioxyde de nitrogène, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, ozone, entrèrent alors dans la composition première du produit offert à la consommation. S'ensuivit une prospection pour connaître la composition du smog de grandes villes réputées pour leur savoir-faire. Los Angeles et son petit arrière-goût de javel et de détergent. Atlanta et ses notes oléagineuses d'alcool. Pékin et une présence plus soufrée en bouche. Tous ces profils ont été intégrés grâce à un long processus d'enquête et de conversion. afin de mieux atteindre la cible émotionnelle au-delà de la connaissance rationnelle de chiffres et de faits scientifiques, le Center for Genomic Astronomy propose de se mouiller davantage en ingérant ces petits nuages aux couleurs un peu suspectes suivant la ville. Une fois les recettes de smog établies avec Nicolas Twilley, une machine a été mise au point pour reproduire les arômes. Le dioxyde de nitrogène rouge est ainsi obtenu en plaçant un sous-noir de nickel dans de l'acide nitrique et d'en capter les émanations de cette réaction chimique. Pomper la fumée d'extinction d'une bougie ou d'une allumette. Reproduire le smog angelino en utilisant une méthode de chauffage des éléments par lampe UV pour tenir compte de l'exposition solaire des particules font partie des stratégies. Une fois tous les composants dosés, ils sont envoyés dans une chambre où sont battus des blancs d'œufs afin de réaliser les meringues. Et ces particules ont un réel effet sur l'expansion des pâtisseries, certaines manquant de souffle, tandis que d'autres deviennent jaunes, marrons ou grises. Tant qu'elles ne sont pas consommées en quantité excessive et sur une base régulière, elles ne sont pas toxiques. Elles ne s'avèrent pas plus dangereuses que de respirer à plein poumon le même smog. La pollution atmosphérique de New Delhi est telle que ses taux de saturation correspondent à la consommation de 44 cigarettes par jour pour l'organisme. Le Center for Genomic Astronomy, désormais basé au Trinity College de Dublin, avec ce petit gâteau anodin, réussit une conversion de l'imaginaire de la pollution. Son imagerie, qui reposait jusque-là sur des effets de saturation, soit sur des litanies de chiffres ou encore des visages masqués, se trouve complètement renouvelée. La meringue est une singulière menace, un cheval de Troie gâterie, a Trojan treat, selon la formule de Denfield, qui pénètre le corps et l'infecte, manière de faire corps avec le sujet, de le prendre à bras le corps, de développer une réaction à l'instar de certains placebos si persuasifs qu'ils font ressentir aux patients des études cliniques de vrais symptômes, ici ceux de la pollution atmosphérique. Le corps du spectateur cobaye n'est plus à l'abri, pas plus que celui du simple citoyen. Les structures de sa chair se retrouvent soumises à ces matières, à la manière des couches stratigraphiques qui ont permis d'attester de l'existence d'une anthropocène. Par un effet d'analogie, stratigraphie intérieure de la Terre, intérieure du corps, génomique de la Terre et de l'humain sont soumises à une pression similaire. Plus question de rester à l'abri comme avec le sublime, esthétique la plus souvent mise à contribution avec l'anthropocène. La réalité de ce changement d'air, qui recèle un gène capitalocène et un autre plasticocène, ne répond pas du régime de la catastrophe et du spectacle, mais d'un ordinaire désarmant auquel ces quelques pratiques vues aujourd'hui formulent une réponse adéquate en proposant d'éprouver non pas une peur virtuelle, mais une crainte bien normale. Le tout à partir d'une expérience de proximité et d'intoxication générale. L'air normal de Londres, l'eau normale de Taïwan, l'air quotidien de Bangalore ou d'Atlanta, les légumes de Fukushima. Un sens du normal et non plus de la catastrophe, qui vient restituer la condition même de l'anthropocène, de ressentir une normalité déviante, une déformation ordinaire qui constitue désormais le canon de référence de cette ère, désormais plus concrète que philosophique. Il est temps de quitter la stratégie de la peur, elle n'a pas fonctionné depuis les années 60. Incorporer. Est-ce qu'il faut incorporer pour changer ? Il faut en tout cas quitter le régime du sans-risque, le régime du savoir à l'abri, pour se mettre à niveau, avec ces pratiques non occidentales exportées dans l'Occident, une stratégie d'infiltration de la forteresse de l'ordre et de la rationalisation. Je vous remercie.